shalom, assalam alaikum. Vraiment, mea culpa, toutes nos excuses pour ce retard de 3 à 4 minutes que nous accusons pour démarrer l'émission de ce jour. Encore une fois, gafara, mea culpa, mien de kukulo. Et nous vous saluons, vous qui êtes déjà en place pour nous écouter sur Radio Canal FM à Lomé, ses environs, mais également au grand nord du Togo sur les antennes de Radio Courtoisie, dans le pays Bassar Konkomba sur les antennes de Radio Daoul, en entendant que nos amis Naouba ou Kabien nous rejoignent. Un camp Radio Sama FM de Baga Niamtougou aura remonté son pylône. Nos amis Tem Kotokoli au centre nous écoutent sûrement sur Radio Central FM, pendant que également dans la ville aux sept collines à Takpamé, vous nous écoutez sur les ondes de Radio La Paix, la voix des plateaux. Nous saluons également les auditeurs du sud-est du Togo qui nous reçoivent sur Radio Lumière émettant depuis Anéro, et puis aux citoyens du monde entier sur Radio Gameli, Radio Le Bénin ou toutes autres applications. Nous sommes de cœur avec vous tous. Nous saluons, remercions également les techniciens qui nous suivent au jour le jour. Vito Bekoku, Michel Tomenga, Giro Dakucha. Les confrères, ils sont au nombre de 3 et une personne ressource. Juste le temps qu'ils s'installent et que nous vous donnions un peu le menu du jour. Naturellement, la situation nous y amenant, nous allons partager entre nous cette situation de tentative de coup d'état militaire qui s'opère au Niger depuis hier. Et puis, revenir chez nous ici, nous allons reparcourir brièvement ces consultations sur le Darfour que le Togo a abrité dimanche et lundi dernier. Puis nous allons nous appesantir sur un appel que 3 leaders politiques ont émis ensemble il y a déjà quelques jours. Nous avons lu, mais nous avons souhaité que l'un des signataires de cet appel soit avec nous pour nous dire le pourquoi et le comment de cet appel au nom des trios. Notre invité, c'est Ouro Akpo Tchanyaou. Bonjour.
Bonjour, bonjour Sass. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs.
Auditeurs du Club La Presse.
Club de la Presse.
Alors, je sais que vous êtes Ouro Akpo Tchanyaou, vous avez un certain parcours politique, mais comment devrais-je vous présenter aujourd'hui
pour cette émission? Comme vous voulez, en tout cas, je porte toutes les casquettes.
Merci.
Suis ancien député.
Ancien député ANC.
ANC, mm-hmm. Et puis bon, président d'un mouvement qu'on appelle Lumière pour le développement dans la paix.
Oui.
Mais vous m'aviez invité aujourd'hui en tant que personnalité ayant contribué à publier une tribune,
oui,
qui a lancé un appel que nous avions appelé l'appel du 17 juillet.
L'appel du 17 juillet que vous avez co-signé.
Que nous avons co-signé.
Vous, Akpo Tchanyaou, avec vos camarades Jean ici et également
Ouro Dupa Tchatikpi.
Merci, nous allons y venir. Mais l'actualité également au jour le jour que nous allons commenter avec les confrères et amis. Michel Sarakawabalo Tchadja de Ouara les Vainqueurs, bonjour.
Bonjour, Sas, bonjour aux confrères et puis bonjour à notre invité, bonjour Canal FM.
Jean Houlot, Polerini du journal Canal D, bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour aux confrères en studio, bonjour à notre invité, aux techniciens derrière la baie vitrée, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de Canal FM.
Merci. Le troisième confrère, c'est Elom Kossi Atichogbe de la Nouvelle Tribune, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux invités.
Eh bien, sur la situation sociopolitique, nous avons remonté à cette phrase que nous connaissons tous, cette phrase qu'on attribue au 16e président des États-Unis d'Amérique, j'ai nommé Abraham Lincoln, qui a défini la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est cette définition attribuée à Abraham Lincoln, qui estime que la démocratie doit ou devrait être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et vous saurez tantôt pourquoi nous avons choisi phrase avec revue de presse déjà. Ouara qui publie aujourd'hui à la page 7 « Sale temps pour le président Mohamed Bazoum, c'est au Niger ». Autre journal, c'est d'ailleurs le sujet avec photo à la manchette d'une mutinerie au putsch, sueur froide à Niamey. Naturellement, celui qui a chaud dans son grand boubou, c'est Mohamed Bazoum. Et le journal Dialogue, le Dialogue lui aussi parle de tentatives de coup d'État au Niger. Situation confuse à la présidence de la République. Je sais qu'avant de venir au studio, nous avons tous regardé toutes les dépêches. Jean Oulo, quelles sont les toutes dernières dépêches que tu as pu parcourir sur la situation qui prévaut depuis hier au Niger?
Oui, ça, il faut dire que le coup d'État est consommé. Il ne faut pas, avoir la langue de bois parce que déjà depuis hier, les tendances, on nous parlait d'abord de mouvements d'humeur, après de mutinerie. Mais à un moment donné, malgré les négociations, il faut dire que l'ancien président nigérien, Mohamedou Issoufou, s'est impliqué, mais lui-même, il a été gardé. C'était donc dire que ceux qui étaient à la manette n'étaient plus prêts à reculer. Et c'est peu avant minuit, heure de N'Djamena, que nous avons
heure de Niamey.
Heure de Niamey. Il y a temps pour moi. Heure de Niamey, que nous avons appris que un nombre de militaires donnés a fait une sachet nationale affirmant qu'ils détiennent le président et toute sa famille et que les institutions sont mises, je vais dire, en berne et que le gouvernement en place est tombé. C'est donc dire qu'à l'heure actuelle, Mohamed Bazoum n'est plus président du Niger, il faut l'affirmer. Et nous attendons de voir la suite parce que les négociations sont en cours toujours. Mm-hmm. Mais il faut dire quand même que l'ordre constitutionnel n'est plus en place au niveau du Niger à l'heure actuelle.
Merci.
Et au-delà de tout ce que je viens de dire, il faut se poser la question de savoir quelles sont les causes profondes.
Non, nous allons aller aux causes. Mais déjà, les dépêches et l'homme et Michel, comme le disait Oulo, hier déjà un peu avant minuit, ils se sont positionnés sur les médias publics du Niger, se présentant au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est la nouvelle instance militaire qui annonce avoir déposé le président Mohamed Bazoum et avoir suspendu toutes les institutions. Hein, et déjà, le Niger en est à son 7e coup d'État en 63 ans d'indépendance. Si on fait la moyenne, 63 divisé par 7, ça veut dire que chaque constitution a une durée de vie de 9 ans au Niger. Et d'après ce que nous dit le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ils ont déposé Mohamed Bazoum parce qu'ils estiment que la situation sécuritaire se dégrade au jour le jour et ils accusent également Mohamed Bazoum de mauvaise gouvernance économique et sociale. On nous a annoncé également des négociations. L'ancien président Mohamedou Issoufou est l'un de ses anciens premiers ministres, mais ça n'a rien donné. Depuis hier, on annonce que le président Patrice Talon du Nigeria, du Bénin, a été dépêché par le nouveau président en exercice de la CEDEAO. Alors finalement, est-ce que Talon a pu atterrir à Niamey?
Bon, on n'a pas eu cette confirmation ces dernières 24 heures, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a eu plusieurs chefs d'État qui ont réussi à joindre Mohamed Bazoum,
oui.
Selon les informations communiquées ce matin. Mais moi personnellement, je crois que c'est ce coup d'État, les coups d'État les plus bêtes, excusez-moi, d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui justifie, justement. On n'est pas des Nigériens, on ne vit pas au Niger. Mais je crois que la stabilité qui prévaut aujourd'hui au Sahel, depuis que Mohamed Bazoum, depuis d'abord Mamadou Issoufou, qui a quand même débouché sur Mohamed Bazoum, ne pourrait pas se justifier par un coup d'État aussi, entre guillemets, bête. Parce que depuis le matin, hier, on a dit que bon, quelqu'un tient en otage le président de la République parce qu'il aurait appris que le président voulait le limoger. Est-ce que ça suffit pour qu'on puisse assigner en résidence un président de la République? Bon, c'est vrai que c'est le général, le commandant de la garde présidentielle, mais ça ne justifie pas tout. Quand vous prenez la cartographie de l'Afrique, ça voudra dire qu'aujourd'hui, le Mali, le Niger et la Guinée. Oui, c'est ça, le Mali, le Niger et la Guinée.
Le Burkina ?
Non, le Mali, le Niger et le Burkina. Voilà, ces trois frontières ont connu chacune des coups d'État. Mais c'est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO, elle est la spectatrice parfaite de cette situation. Et c'est la première patate chaude filée à son président en exercice, M. Bola Tinubu, qui, en l'espace de quelques jours seulement, connaît un coup d'État dans la sous-région, dans un pays. Ben, c'est quand même grave. Et donc, depuis hier, moi, depuis tôt le matin, hier, quand j'ai appris qu'on a signé le président Mamadou Mohamed Bazoum, voilà, résident. Je me suis posé la question de savoir, mais ça voudrait dire qu'il y aura un coup d'État parce que personne ne va prendre le risque d'assigner un président en résidence et après se rendre pour dire qu'il a discuté, négocié, parce que s'il le fait, c'est qu'il est mort. Il n'a qu'à comprendre que lui-même, il est capturé ou bien il se tire une balle dans la tête. Ouais. Vous n'assignez pas un président en exercice résidence pour dire que vous avez appris qu'on veut vous limoger. Après, on discute avec vous et vous le libérez et après, vous restez dans le pays. Ben, c'est ça, ça voudra dire que vous-même, vous
justement, avez signé. Justement, Michel, toi et moi, voilà. nous sommes appelés hier au téléphone et tu me disais que quand tu commences un coup d'État, tu es obligé d'arriver jusqu'au bout.
Ah, c'est clair.
Je suis désolé, hein. C'est comme ça, ça se passe. Vous savez, quand on a appris que le commandant de la carte présidentielle a agi, semble-t-il, parce que il aurait appris que on veut le changer, moi je ne crois pas à ça, c'est des histoires, ça c'est des arguties. Je ne pense pas à ça, il y a d'autres problèmes beaucoup plus sérieux. Mais comme Elom le disait tantôt, ce qui s'est passé au Niger, moi ça ne m'a pas surpris. Parce que beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients étaient réunis pour que Bazoum parte un jour. La manière dont il est venu au pouvoir d'abord déjà...
Il a été élu,
mais il a été à une élection exclusive parce que son prédécesseur Mamadou Sifou a utilisé comme Macky Sall la mitraillette juridique pour écarter Mamadou. Voilà, c'est il a été à une élection exclusive. Il faut le signaler, c'est très important. Et je vois aussi que la résistance du Mali. Face à l'UIA, face à la CEDEAO et face à certaines puissances occidentales, fait déjà des émules.
Jurisprudence.
C'est la jurisprudence. Parce que le Mali a résisté. Et aujourd'hui, les poutistes, ceux qui sont actuellement, ceux qui contrôlent actuellement le Niger, ils ont compris que lorsque vous entamez un coup d'État, si on ne vous prend pas dans l'œuf, si vous osez, c'est une question de vie ou de mort. Quand hier, Sassou le disait tantôt, j'ai échangé avec lui par rapport à la situation, je lui disais que on ne fait pas une mutinerie et le lendemain on dit bon, c'est bon, bon.
On s'est entendu.
Non, il n'y a pas ça. Ça n'existe nulle part. Les poutistes actuels, ils ont pris l'exemple sur Sanogo. C'est comme ça qu'on a berné Sanogo au Mali. Après, il a cédé. Après, on l'a pris, on l'a enfermé. C'est comme ça Macky Sall et Boni Yayi sont allés berner Dengere. Et actuellement, vous savez où il est. Donc, quand vous regardez ces schémas-là, vous voyez que ces gens-là, j'ai dit à Sass hier qu'il n'y a plus qu'on dit de négociation en cours là. C'est pour blaguer nous, les petites gens. Sinon, ceux qui les savent, ils savent que c'est terminé. On ne se soulève pas contre un président.
Quand même.
Si vous osez, allez jusqu'au bout, quitte à vous de perdre votre vie. Sinon, ou de triompher. C'est comme ça, ça se passe. C'est l'histoire, hein. C'est pas nous qui le disons ici, c'est l'histoire qui le dit. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, peut-être on en viendra aux causes, mais d'une manière schématique, voilà ce que moi j'ai pu constater.
Je rappelle que depuis hier, c'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui assume ce coup d'État. Deux raisons qu'ils évoquent, c'est la dégradation continue de la situation sécuritaire d'un et de deux, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Je rappelle que depuis l'indépendance du Niger en 1960 jusqu'à ce jour, c'est la septième fois que les militaires font irruption sur la scène politique et qu'ils renversent un régime démocratiquement élu. Et quand on fait la somme, quand on fait la division, 63 divisé par 7, ça veut dire qu'une constitution a une durée de vie moyenne de 9 ans. Même c'est pas 9 ans, parce qu'entre temps, il y a eu les transitions militaires.
Voilà.
Hein, donc quand on fait la somme, hein, on pourra
c'est
savoir.
Ça.
Et puis, ceux qui applaudissent ou applaudiraient éventuellement à ce coup d'État en cours devraient se rappeler que le 22 février 2010, le colonel Salou Djibo, au nom du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, avait renversé le président Mamadou Tandja. Et dans la rue, on avait vu un certain Mohamed Bazoum mobiliser ses troupes, ses militants, pour acclamer le coup d'État que les militaires avaient fait contre Mamadou Tandja. C'était le 22 février 2010. Et
Il faut rappeler Mamadou Tandja qui réclamait 3 ans
de bonus
pour terminer les projets, pour terminer les projets qui étaient en cours. Or, les projets appartiennent à l'État, c'est pas
voilà. Donc, Mohamed Bazoum, qui il y a 13 ans, applaudissait les militaires qui faisaient coup d'État à Mamadou Tandja, lui-même se retrouve aujourd'hui victime d'un coup d'État. Bon, les causes. Nous sommes ici au Togo. Jean Legrand, tu voulais en parler.
Oui.
Selon toi, quelles sont les situations qui ont pu amener les militaires à déposer Mohamed Bazoum?
Oui, c'est vrai que la revendication principale, on parle de dégradation de l'état sécuritaire, également de la mauvaise gouvernance sociale et économique. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis quelque temps, la gouvernance de Bazoum, notamment au niveau de la stratégie militaire, n'était pas véritablement en phase avec les aspirations de plusieurs hauts gradés. Rappelez-vous que
l'armée nigérienne.
Rappelez-vous que l'année dernière, il avait déjà limogé le chef d'état-major, qui était quelqu'un véritablement apprécié au sein de l'armée, parce que ce monsieur avait des accointances avec les militaires du Mali. Déjà, c'est une pilule qui est mal passée au sein de l'armée, même si on a étouffé les récriminations et les revendications dans l'œuf. Il faut dire que plusieurs n'ont pas digéré ça. Et ils attendaient de voir. C'est vrai qu'on dit que le général Tchiani actuellement devait être limogé, mais je ne trouve pas que véritablement ce seul élément déclencheur pouvait c'est-à-dire être à la base de ce coup d'État. Et non seulement ça, les déclarations de Bazoum vis-à-vis de ses voisins qui ont déjà des militaires à la tête.
Donc, surtout le Mali et le Burkina Faso.
Toujours face à la crise sécuritaire. Parce que vous savez, les militaires sont ceux qui vont au front. Les dirigeants sont dans les bureaux. Mais quand parfois les dirigeants prennent des décisions qui ne sont pas en phase avec l'armée, c'est cette armée qui est au combat. Et cette armée s'est vue plusieurs fois humiliée au point où, actuellement, sur le territoire nigérien, vous avez des bases étrangères, notamment américaines et françaises, qui sont installées. Dites-moi, quelles sont ces armées-là qui peuvent être fières de voir qu'elles sont constamment humiliées et que le président, je ne suis pas là pour défendre les coups d'État, mais que ce président-là prenne du loisir à humilier son armée, à ne compter que sur ses alliés extérieurs. C'est autant de choses déjà dans l'œuf qui sont des braises qui ont été attisées et peut-être qui ont conduit à ce coup d'État. Parce que il faut dire qu'aujourd'hui, les militaires nigériens sont inefficaces, c'est-à-dire ne sont pas suffisamment armés comparativement quand on voit ce qui se passe au niveau du Mali. Le Mali qui a aujourd'hui décidé de briser le plafond de verre pour prendre son envol avec les alliances extérieures, c'est-à-dire ils ont lié les alliances comme ils peuvent aujourd'hui pour faire face à la menace. Au niveau du Niger, les choses sont véritablement contournées et les militaires se posent beaucoup de questions. Quand vous voyez au niveau du Burkina, c'est le même prétexte qu'ils ont pris. Ils ont parlé de la crise sécuritaire. Au niveau du Mali, c'est la même chose. C'est dire qu'aujourd'hui, face à la montée en puissance des groupes terroristes, il faut une synergie d'action au niveau des États. Parce que quand nous avons, au niveau de la bande du Sahel, des États qui ont pris certaines dispositions et d'autres qui sont là à critiquer les autres, mais la situation ne s'améliore pas, essayer de comprendre qu'à un moment donné, les digues vont sauter. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister.
Eh bien, le tableau aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est le 4e régime militaire. Si les militaires du Niger allaient à se conforter, il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Burkina, il vient de s'y ajouter le Niger. Et quand on prolonge un peu au Niger, c'est plutôt au Tchad, c'est encore des militaires qui sont là-bas.
Mm-hmm.
Et quand on continue au Soudan, c'est 2 généraux qui n'arrivent pas à s'entendre et qui livrent leur pays, le Grand Soudan, au feu à la flamme et à la famine. Alors, ça veut dire que du Mali jusqu'à la mer Rouge, tout le Sahara ou bien le Sahel est contrôlé ou bien est sous la domination des militaires. Or, les militaires qui ont fait des coups d'État en Afrique, nous les voyons depuis 1963, ici, chez nous, ici au Togo. Et vous nous direz, si un régime militaire a su réellement impulser le développement de son pays. Ourou Akotchanyaou, vous êtes acteur politique. Vous n'êtes pas indifférent à cette situation qui prévaut au Niger depuis hier.
Bien sûr, je ne suis pas indifférent. Et moi, depuis longtemps, j'observais ce qui se passe au Niger et je me félicite par rapport à l'intervention de M. Ouara, le vainqueur,
Michel Tchadja,
qui vient de faire un développement clair. La manière dont Bazoum est arrivé au pouvoir...
Même s'il a été élu démocratiquement.
Non, tout le monde a vu la manière dont il était arrivé au pouvoir. Tout le monde savait que c'est par un forcing que le vrai challenger a été écarté et on l'a imposé. Et quand j'ai vu la déclaration de bien de Mamadou, Bazoum, quand j'ai vu la déclaration de bien, je me suis dit, mais comment il a réussi à emmagasiner toutes ses richesses? Ça veut dire que ce n'est pas un patriote, un nationaliste, c'est quelqu'un qui est là pour servir l'oligarchie internationale.
Mais il est dans la politique depuis plus de 30 ans.
Moi aussi, je suis dans la politique depuis plus de 20 ans. Je sais de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand vous regardez la déclaration de bien de Bazoum, vous allez vous poser la question. Ça veut dire que celui-ci, il était en acquaintance avec l'oligarchie internationale.
Là, c'est vous qui supposez.
Oui, c'est mon analyse personnelle. Et à partir de cet instant, vous avez vu les déclarations qu'il a eu à faire. Et moi, j'ai été choqué qu'un chef d'État déclare publiquement à travers un journal international que les terroristes sont plus armés que l'armée nationale, que les armées nationales. Ça, c'est regrettable. Alors, quel est le rôle?
Il n'a peut-être dit...
Il ne devrait pas le dire. Il ne devrait pas le dire. Au contraire, c'est un constat qui devrait le faire dans une cellule de défense et trouver les solutions. C'est ce qui se passe au Mali. C'est ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc, vous n'allez pas voir le chef de l'État togolais. La dernière fois, quand on l'a interviewé à la veille du 27 avril, ben, il a fait un constat. Mais il ne pouvait pas aller dire des choses comme ça pour irriter son armée. Au contraire, il a tout fait pour féliciter l'armée par rapport au combat. Et il a appelé tout le peuple togolais à se mettre ensemble avec son armée pour bouter les terroristes dehors. Voilà le rôle d'un chef d'État. Mais lui, moi, il m'a déçu et j'ai senti qu'il n'a pas le sens du patriotisme. Et vous comprendrez que ceux qui sont arrivés, ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit que c'est pour la sauvegarde de la patrie. C'est très important.
Merci. La situation est assez volatile. D'après ce que nous apprenons par les dépêches, Mohamed Bazoum serait toujours au sein de sa résidence, en bonne santé. On annonce l'arrivée peut-être imminente de Patrice Talon du Bénin, qui va jouer au négociateur au nom de la CEDEAO. Est-ce que Talon va pouvoir arriver à Niamey? Est-ce qu'il va être accueilli par les putschistes? Qu'est-ce que les négociations vont donner? Michel, disons, parlons anglais, où est ainsi?
Ça, tu parles encore de la CEDEAO. Tu vois, les gens nous écoutent. Tu parles encore de la CEDEAO.
Oui.
Est-ce que la CEDEAO s'appartient?
Oui, il y a quelques...
Tu te rappelles qu'un président... hors CEDEAO, hors Afrique, a dit, je verrai quand l'autre là, notre voisin de l'Ouest là, je verrai Nana Akufo-Addo pour qu'on sanctionne, qu'on corse la sanction contre les Maliens.
Et ça a été fait.
C'est un président qui n'a rien à faire avec la CEDEAO.
C'est le président français qui l'avait dit.
Voilà.
Et dans les jours qui ont suivi, la CEDEAO s'était réunie pour corser la situation contre le pays.
Voilà. Est-ce que ça veut dire que la CEDEAO s'appartient? Lui a là. C'est pourquoi, vous savez, hier, ils sont pressés quand les autorités nigériennes, en tout cas, parlaient de mouvement d'humeur.
c'est la CEDEAO, lui, à qui on parlait, premièrement, de tentative de coup d'État. Mmh. En français, facile, là. Tu sais ce que ça veut dire?
Non.
Non. C'est pour...
D'ailleurs, ils sont proches de la situation. Et ils sont proches de la situation. Ils pouvaient analyser, prendre la température. Donc, je crois qu'ils savaient exactement qu'il y avait une tentative de coup
d'État. C'était une tentative de coup d'État. Mais les autorités nigériennes, à l'époque, voulaient calmer. Oui. Dire que, bon, mouvement comme de... le disait Ouro Apo Tchanyam tout à l'heure, un père de famille n'a pas le droit de se plaindre devant les enfants. Au contraire, il doit rassurer devant... Dans n'importe quelle situation, il faut rassurer. C'est pourquoi je suis d'accord avec lui quand il dit que le président Bazoum faisait étaler sur la place publique les faiblesses de son armée, ce qui n'est pas normal. Et au même moment, il insultait le chef de la transition au Mali, au Burkina, il insultait tout le monde chaque matin. Vous voyez, ça veut dire quoi ça? Donc, d'abord, son arrivée au pouvoir, ça a été suscité par certaines puissances. Et on a imaginé comment exclure les autres. Ça, une partie des Nigériens l'ont toujours au cœur actuellement. Deux, il y a l'armée nigérienne qui, à un moment donné, ne comprend pas le comportement de leur chef suprême, qui vraiment préfère faire confiance aux forces extérieures qui sont sur son sol, suivez mon regard, que d'aider son armée à combattre. Cette armée qui a pendant longtemps... combattu seul contre le Boko Haram et les terroristes et tout ça là. Et donc, ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que mais il a moins d'amis voisins. Oui. Il a moins d'amis. Tenez compte de ça.
Les frontières,
il a moins d'amis. Puis tout le monde l'attendait. Aujourd'hui, je ne sais pas si les... comment vous l'appelez, Assimi Goïta, qui est actuellement il a ouvert un champagne, bon, comme il est musulman, qu'est-ce qu'il a, s'il va manger Korosé aujourd'hui, je ne sais pas, parce que à un moment donné, quand vous êtes à la tête du pays, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, c'est interdit, votre poste vous oblige à avoir certains comportements. Mais ce président, à un moment donné, mais il pensait que le fait d'avoir certains sur son sol pour l'aider, il pensait que bon, son armée ne... Et vous voyez, hier, quand ça évoluait, j'ai appris qu'il y a certains qui disaient que l'armée républicaine, quoi, que si ceux qui sont en train de tenter là, s'ils ne laissent pas, ils ne reviennent pas à la raison, bon, mais attendez là. Mais vous voyez, loin de nous de soutenir les coups d'État, tu connais ma position dans ce sens, oui. Je ne soutiens jamais coup d'État, tu l'as dit ici, quand les militaires voient le fond du marmite, c'est fini. Pour partir, c'est fini, c'est difficile. Tu vois, non. Mais celui qui a pris Bazoum, c'est celui qui le protégeait. Qui dit que, bon, maintenant, là, il est avec moi. Mais certains pensent que, bon, que si il ne reviendra pas à la raison, vous allez faire à l'Holocauste ou bien quoi. Vous allez mourir, pourquoi? Donc, quand tu connais l'état d'esprit des armées, tu dois comprendre que ce que les autres l'ont raconté là, c'est des histoires.
Merci. Je rappelle la pensée du jour que nous avons rappelée en début d'émission. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faudra que nos dirigeants au sommet de nos différents États se rappellent cela.
Mais je conteste ça.
Oui.
Vous savez, on a récité ça à l'école. On continue par nous dire ça. Mais... quand on réfléchit bien, c'est faux. On nous trompe.
Uh-huh.
Oui, la démocratie, c'est pas comme ça.
C'est comment?
Ce n'est pas le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Non, c'est le gouvernement d'une minorité pour le peuple.
Non, c'est la réalité que tu caricatures. Voilà. Mais l'idéal,
la majorité ne gouverne pas.
Cultivons quand même l'idéal. Ouais. Ça veut dire que le gouvernement devrait émaner réellement du peuple.
Tu as dit réellement,
bien sûr.
Mais c'est ça qui c'est la force nôtre.
Et agir au nom du peuple, pour ce que le peuple veut, pour ce que le peuple attend. C'est l'idéal.
Et les coups d'État, que ce soit au Mali, au Burkina, en Guinée et hier au Niger, c'est le peuple qui a fait coup d'État. C'est ceux qui sont à côté du fauteuil qui voient que le fauteuil là est bon.
Et c'est justement c'est pourquoi on ne les appelle pas démocratistes. Ce sont des jeunes militaires qui opèrent des coups. Eh bien.
Mais réellement, mais un instant. Oui, attendons. Si on doit analyser bien ce qui s'est passé au Niger, ou bien ce qui se passe depuis hier, ça appelle notamment à une profonde réflexion de toute la classe politique africaine et de l'élite.
C'est ce que j'essayais de
faire. Parce que ce qui se passe là, c'est extrêmement dangereux. Vous savez, on est dans une situation très très délicate où les terroristes sont en train d'avancer en territoire conquis. Nous, au Togo, par exemple, la dernière nuit, l'autre nuit, on a perdu beaucoup de, une dizaine de militaires, paix à leurs âmes et force à nos FDS qui sont au front. Mais vous comprenez que la situation sécuritaire, même au niveau de l'Afrique, est problématique, surtout dans le Sahel. Et donc, si on doit, dans ce contexte sécuritaire, des armées doit profiter de la situation pour déstabiliser les institutions, c'est dangereux. Parce que après les armées, quand les civils reprennent le pouvoir, dans l'histoire politique de tous les États africains, ça n'a jamais été normalisé. Quand après, les militaires ont repris le pouvoir, parce que quand vous regardez, quand il y a eu coup d'État, aujourd'hui, ce qui se passe avec Goïta au Mali, bon, c'est vrai que les gens sont contents, la France n'est plus là, la Russie n'est pas... Après Goïta, il y aura un civil à la tête du Mali. Ça va se passer comment? Et si lui, il revenait avec la France? Parce que en fait, on va retomber dans les mêmes travers. Donc, il faut trouver une solution. Et la CEDEAO n'est pas l'institution habilitée à trouver la solution là. À l'heure où nous sommes en train... Non, franchement, parce que on a sanctionné le Mali, on a sanctionné la Guinée, on a dit, voilà, on sanctionne celui-ci. Mais après, on vous sanctionne, quelques mois après, vous réhabilitez les mêmes États. Ça voudra dire que vous cautionnez, en fait, les coups d'État.
C'est, le tableau doit être inquiétant. Hein.
Non. Le schéma est l'homme. C'est-à-dire, voyons les choses d'une manière claire. En principe, c'est les institutions là, comme la CEDEAO, l'UA, qui doivent régler ces situations-là. Mais elles se sont comportées
inféodées
d'une manière.
Elles se sont compromises
voilà. Avec
les systèmes des pays en place.
Vous voyez, et c'est l'UA, la CEDEAO, leurs émissaires, c'est eux qui sillonnent les pays pour valider les
élections.
Les élections, le bourrage d'urne, ceux qui violentent leur peuple avant de venir au pouvoir, c'est eux qui vont les applaudir tout le temps. Aujourd'hui, le leader militaire qui est là, observe. C'est ça la différence au 21e siècle. Ces derniers temps, le leader militaire regarde ce que vous organisez. Quand les militaires, regardez au Mali, les gens sont allés amener les hélicoptères, on a venu des vieux hélicoptères et pour s'enrichir et ces hélicoptères-là, quand les militaires vont monter dedans, on veut tuer les militaires ou quoi? Ils observent. Donc, à un moment donné, ils disent, ça va, et nous-mêmes, nous allons.
Nous prions respectueusement nos dirigeants de se rappeler que nous sommes en 2023, que comme le dit, les militaires observent. Nous, les peuples aussi, nous observons. Même si nous nous taisons, ça ne veut pas dire que nous sommes aveugles.
C'est pas où, à Kotanyao. Oui, non, je voulais dire que tout ceci, c'est le résultat de l'échec de la deuxième génération des chefs d'État africains. Les premiers se sont battus pour obtenir l'indépendance de l'Afrique. Et ils ont mis, tant bien que mal, l'OUIA, et ils ont continué la lutte avec la libération des peuples en Afrique du Sud et autres. Mais la deuxième génération, celle qui a été installée, avec la complicité des Européens. Je parle de l'impérialisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont compromis, comme vous l'aviez dit. Rappelez-vous le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Les mêmes qui l'ont signé, c'est les mêmes qui l'ont violé. Je parle de Mamadou Tandja, je parle de Gnassingbé Eyadema, je parle de Abdoulaye Wade. Au même moment qu'ils ont signé le protocole pour la limitation des mandats, ils se préparaient pour installer leurs enfants. Et Mamadou Tandja, vous avez dit, il voulait s'augmenter, ou bien s'auto-augmenter 3 ans, en violation du protocole de la CEDEAO, que lui-même il a signé. Gnassingbé Eyadema, lui-même qui a signé, il est le dernier à signer. Quand vous prenez la liste de ceux qui ont signé le protocole, c'est Gnassingbé Eyadema qui a signé. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir en violation de ce qu'il a signé, pour un autre mandat.
C'était en 2003.
En 2003, et à la suite, installer son fils. Vous prenez Abdoulaye Wade, c'était pareil. Abdoulaye Wade voulait s'octroyer un autre mandat après avoir signé. Donc, c'est l'échec de la deuxième génération des chefs d'État africains. Et la troisième génération des chefs d'État africains,
les Ouattara, Fort Niassingbé, comment l'appelle-t-on, le Sénégalais, Macky Sall, des gens sur qui l'Afrique pouvait compter. Mais eux, ils sont pires, impétrés dans le troisième mandat. Vous avez vu ce que Macky Sall a failli amener au Sénégal. Vous avez vu ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, dont personne ne sait quelles sont les limites du pouvoir que le gars veut s'octroyer. Donc, et tout ceci, à la fin, ne peut que conduire à des frustrations, à des mécontentements, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan social et autres. Et les gens qui ont la possibilité d'avoir l'arme à côté d'eux, vous ne pouvez pas les empêcher de l'utiliser pour prendre le pouvoir. Michel Tchadjal vient de le dire. Quand le militaire voit le fond de la marmite, c'est que vous ne pouvez pas l'empêcher de s'accrocher à la marmite. C'est ce qui se passe actuellement en Guinée.
Donc, alors justement, Dieu merci, le Togo ne connaît pas de situation de coup d'État. Nous avons, depuis 91, sorti de la conférence nationale souveraine, nous faisons des élections, bon an, mal an, présidentielle, législative. On va y venir. Présidentielle, législative, municipale, bientôt on fait les régionales. Bon, est-ce que tout marche pour autant bien dans notre pays, surtout que nous sommes encore à la veille d'échéance électorale? C'est en perspective de cela que, avec Jean Kissi et Ouro Tchatikpi, Ouro Tchikpa, vous avez signé et publié une tribune depuis le 17 juillet dernier. Dans sa parution d'hier, le confrère La Lanterne le rappelait, dans la perspective des élections régionales et législatives, le trio Tchanyaou, Ouro Akpo, Jean Kissi, Tchatikpi, Ouro Tchikpa prêche l'union de l'opposition. Et déjà, dans sa parution d'il y a la semaine dernière, le confrère La Manchette, lui aussi, écrivait « S'unir pour sauver le Togo, l'appel des trois leaders politiques ». Eh bien, dites-nous, Ouro Akpo Tchanyaou, qu'est-ce qui vous a amené à publier cette tribune à trois?
En réalité, c'est un diagnostic que nous avions fait. Et pendant longtemps, nous avions travaillé comme des lieutenants dans l'ombre de certains leaders.
De vos leaders.
De nos leaders. On était dans l'ombre, mais on avait travaillé dans ce sens. Mais à un certain moment, nous sommes rendus compte que la situation s'est dégradée. Et nous sommes retrouvés comme un groupe de réflexion. Nous avions l'habitude de le faire. Et nous avions réfléchi. Et nous avions fait le diagnostic. Nous avions fait l'analyse par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et nous sommes rendus compte que depuis 1963, date à laquelle le premier président élu a été tué,
Sylvanus Olympio,
le pays n'a pas décollé. Dans les années 60, en 1960, le Togo avait pratiquement le même niveau de développement que les sept dragons de l'Asie du Sud-Est. Le Singapour, Hong Kong, même la Corée du Sud, tout ça là. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est la 11e puissance mondiale.
Et nous,
au Togo, on est en train de régresser. Le taux de croissance est entre 4 et 5% depuis 2010 jusqu'à ce jour. Alors qu'on a promis que le Togo devrait atteindre le décollage en 2030. Donc, le pays ne fait que régresser. Et nous sommes posés la question, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle qu'un des ministres actuels a fait le constat qu'à la mort de Yadema, il a laissé le pays socialement déchiré, politiquement désorganisé et économiquement exsangue. Mais depuis l'avènement du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qu'est-ce qui a changé plus tôt? On a régressé. On nous avait promis, selon les OMD, que le pays devrait atteindre la moitié de la pauvreté. La pauvreté devrait diminuer de moitié à l'horizon 2015. Mais tous les projets qui ont été organisés depuis la DSRP, en passant par la SCAP et le PND aujourd'hui, apparemment, on se rend compte que rien ne décolle. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes dit que le régime lui-même est responsable de la situation dans laquelle le Togo est, parce qu'il règne des maîtres de fer. Et le système imposé est un système à la fois clanique, clientéliste, qui ne cède pas devant les compétences et la concurrence. Ce qui explique le fait que tous les projets qui ont été initiés ont échoué. Alors, est-ce que l'opposition elle-même aussi...
Alors là, vous écrivez par exemple que le Togo est le pays avec le moins d'infrastructures dans la sous-région, mais c'est nous également qui avons les salaires les plus bas. Et plus loin, vous continuez, vous écrivez que le système au Togo consiste à fabriquer un petit nombre de milliardaires, soit au niveau des régies financières ou bien dans le secteur privé. À cette minorité de milliardaires, il est laissé le loisir de piller, je vous cite, hein, de piller les richesses publiques pour s'en servir, pour s'acheter à chaque élection la conscience d'une partie du peuple affamé volontairement au moment des élections.
Effectivement, quand vous prenez le journal Liberté du mercredi 17, je pense, ou bien 19 juillet, le camarade Thomas Koumou a fait une publication dans laquelle il a démontré que de 2000, pendant 14 ans, le cumul des budgets donne 14 904 milliards. Et la répartition est faite en sens que le ministère de l'économie et des finances a consommé 22%. Ça fait plus de 3 000 et quelques milliards avec 1 600 milliards pour la gestion de la dette. Alors, le pays s'est endetté à un niveau où, aujourd'hui, on parle de l'insoutenabilité de la dette. Mais, des gens, c'est des minorités qui se sont enrichies. Et le chef de l'État l'a dit. C'était le 26 avril 2012, qu'une minorité accapare toute la richesse au détriment de la majorité. Quand vous prenez la répartition de ces budgets au niveau de l'État, donc 6% seulement ont été accordés au ministère de la Santé, alors qu'on nous a parlé de mandat social. Alors qu'il y a au sommet, il y a eu un sommet d'Abuja qui a demandé à tous les pays africains de monter le budget de la santé à 15%. Mais le Togo, en Afrique occidentale, est pratiquement le seul qui est à 6%. Même le Burkina Faso et le Niger sont au-delà de 10%. Quand vous prenez l'agriculture, le ministère de l'Agriculture est aussi au niveau d'environ 4%. Alors que le sommet de Maputo a exigé à tous les pays africains d'utiliser 36% de leur budget pour l'agriculture, la santé et l'éducation. Quand vous prenez les trois secteurs, vous constatez que ça n'atteint pas les 20, ça n'atteint même pas 20%. Alors comment on peut organiser le développement lorsqu'on sacrifie le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement Technique? Le ministère de l'Enseignement Technique est le parent pauvre de tous les ministères, parce que même le ministère du Développement à la base a un budget plus élevé que le ministère de l'Enseignement Technique. Et pour information, on nous dit que le ministère de Développement à la base a utilisé plus de 235 milliards pendant les 14 ans pour permettre à la population de s'organiser. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? C'est que ce ministère n'a fait que gérer la misère. On n'a pas pu créer en 14 ans, avec plus de 235 milliards, on n'a pas pu créer ce qu'on appelle la classe moyenne. Or, c'est la classe moyenne qui crée les richesses.
Dans d'autres pays, dans votre tribune, alors pour résumer, vous dites que le pouvoir au Togo est essentiellement militaire et se sert seulement d'un paravent politique. Hier, le RPT, aujourd'hui UNI, donc ce régime qui fabrique une petite minorité pour acheter les consciences au moment des élections. Mais vous continuez et vous écrivez que le bourreau du peuple togolais, c'est aussi du côté, je vous cite, le bourreau, c'est aussi ceux du côté du peuple dont la seule union sincère pourrait constituer une arme redoutable pour libérer le peuple, mais ne le font pas à cause des égos et des ambitions partisanes et même personnelles démesurées. Vous parlez des rangs des forces dites de l'opposition.
Effectivement, je vous disais que nous avons travaillé pendant longtemps dans l'ombre de nos aînés. Et quand vous prenez Jean Kissi, vous me prenez Ouro Dipa, nous avions fait ce travail-là. Je vous rappelle qu'à la création du CST, qu'est-ce qui a créé la division, le CST et puis Arc-en-Ciel?
Le CST, c'était en 2013.
En 2013. Nous avions travaillé, Jean Kissi, moi et d'autres personnes, pour rapprocher tous ces dirigeants-là. Mais c'est la déclaration, la première déclaration qui les a séparés. Et nous avions constaté qu'il y a l'ego de certaines personnes qui ne permettent pas
dans les rangs de l'opposition.
Dans les rangs de l'opposition de se mettre ensemble. Et chaque fois qu'il y a une initiative, les mêmes personnes qui lancent l'initiative sont les mêmes personnes qui empêchent l'initiative de réaliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être vous n'allez pas... Mais je vais vous donner un exemple. Le 26 avril 2020, dans le discours que M. Jean-Pierre Fabre a adressé au peuple togolais, il a appelé la classe politique à un sursaut national pour un compromis historique. Et nous nous sommes saisis de cet appel. Nous nous sommes constitués en un groupe de réflexion. On a regroupé plus de 7 partis politiques de l'opposition. On a discuté. On a identifié les éléments. Nous avions identifié 22 points. Et sur la base de ces 22 points, nous nous sommes allés vers tous les chefs de parti pour leur permettre de parler d'une seule voix. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le ministre de l'administration territoriale a lancé des discussions bilatérales pour parler des élections, pour la préparation des élections régionales, qui étaient prévues probablement pour le 29 décembre 2020. Mais heureusement, par rapport à ce travail, ils se sont entendus pour dire que non, que les conditions ne sont pas réalisées pour aller aux élections régionales. Et ils se sont entendus, des fils en aiguille, effectivement, on est arrivé à la CNAP. Mais vous aviez vu comment la CNAP a été gérée. Alors que, je vous fais la confidence, il y a certains points qui avaient été obtenus avant même la CNAP. Par exemple, en lieu et place de la révision des listes électorales, ils ont obtenu le recensement à biométrie intégrale. C'est ce qui a demandé à ce que, avant le recensement, qu'il y ait des audiences
foraines. On n'a pas le temps.
Non, s'il vous plaît, je vais terminer. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'à la CNAP, ils n'ont pas pu s'entendre pour parler d'une seule voix. Et les acquis aujourd'hui, les acquis de la CNAP, ne sont pas réalisés. Voilà l'une des conséquences avec ce qui s'est passé au niveau
de l'opposition. Donc, Ego est mesuré dans les rangs de l'opposition,
bien sûr,
qui ne favorise pas l'avant. Et puis, vous continuez, vous avez lancé un appel solennel à toutes les forces vives à se mobiliser pour obtenir notamment la libération des détenus politiques, l'arrêt définitif de tout harcèlement à l'endroit des journalistes, le retour à la version originale de la loi Bodjona, manifestation politique, la charte contre la corruption, pour la redistribution équitable des richesses, la tenue d'une assise nationale à l'intérieur de laquelle tous les secteurs de la vie nationale tiennent leurs états généraux. Tout cela, c'est bien. Mais le problème, vous avez dit, vous, Ourou Akotianyaou, Jean Kissi et Tchatikpi Ourochikpa, vous n'êtes pas en odeur de sainteté dans vos différentes formations politiques. Je dirais même que vous êtes un peu les pestiférés, sinon les exclus. C'est pour demander quelle chance de succès estimez-vous donner à cette sortie.
Vous savez, nous nous sommes donné cette responsabilité de montrer la lune. Nous voulons montrer la lune. Donc c'est pour ça que nous ne demandons pas aux gens de regarder nos doigts. Parce que dire que Ourou Akpo, bon, c'est vrai ce que vous avez dit, votre caricature par rapport à notre endroit, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de regarder là où se trouve la lune. Et l'appel que nous avions lancé concerne tous les Togolais. Vous savez, lorsque, si vous permettez, que nous sommes retrouvés, nous avions posé cette question. Mais nous sommes dit que peut-être que nous pouvons nous sacrifier dans cette démarche pour permettre à tous nos aînés de se retrouver, ou du moins le peuple togolais de se retrouver dans notre appel. Et nous nous disons que c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas parce que ça ne sera pas facile que nous n'allons pas le faire. Nous allons le faire, et avec le peuple togolais, nous sommes sûrs que les bonnes personnes vont nous entendre.
Donc le trio qui a fait un diagnostic, caricature du pouvoir en place, caricature également de l'opposition, cet appel hein, pour favoriser hein, la reprise des contacts, des dialogues, et que les forces démocratiques de l'opposition puissent s'unir, trouver une formule en prélude aux élections à venir. Le débat est lancé. Vous l'avez publié depuis le 17 juillet dernier. Nous amplifions le débat par votre passage dans cette émission. Les débats vont continuer.
Je tiens personnellement, avec votre permission, à féliciter tous les journalistes qui ont participé à ce débat. Même j'ai suivi Elom sur Taxi FM. En tout cas, beaucoup de personnes.
C'est notre travail quotidien.
Merci beaucoup. Merci pour. En tout cas, vous êtes comme le vent qui amène les semences.
Oui, nous le savons un peu. Hein, quand nos articles et nos commentaires vous arrangent, vous nous caressez dans le sens du poil. Mais quand nous nous montrons critiques à votre endroit, c'est encore vous.
Vous allez vous rendre compte que depuis un an et demi ou deux ans, moi aussi je publie des articles.
Ouais, et vous savez ce que nous goûtons au jour le jour. Beaucoup de courage et bonne chance.
C'est pour ça que je vous félicite.
Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on aborde quand même quelques brèves économiques. Et l'homme, très rapidement, s'il te plaît. Tu as approché le nouveau directeur de ce que nous appelons communément la foire Togo 2000. C'est le temps que je me rappelle son nom, Alexandre de Souza. Alors, au bout des 100 premiers jours, quelles sont les actions urgentes, prioritaires qu'il a pu lancer et quel CETEF veut-il nous laisser rêver?
Bah, écoutez, c'est quand même un honneur pour nous au niveau de la nouvelle tribune d'avoir justement réussi à interviewer le nouveau directeur général à l'occasion de son bilan des 100 jours, les 100 premiers jours à la tête du CETEF Togo 2000. De quel CETEF rêve-t-il et quelle est sa vision? Ça voudra dire qu'en substance, je vais décliner le contenu de cette longue interview, parce que c'est une très longue interview.
Sur deux pages.
Je le rappelle, oui, c'était fastidieux. Mais quand même, c'est un directeur général habité par sa mission, quelqu'un qui connaît bien ce pourquoi il est là, qu'on a quand même trouvé. Et aussi, hein, par rapport aux nouvelles réformes en cours au niveau de ce centre stratégique de la capitale, surtout en ce qui concerne la foire internationale de Lomé que vous connaissez tous, mais au-delà de la foire internationale de Lomé, réformer même le CETEF pour qu'il devienne justement à terme un centre de conférence, un carrefour de conférence par excellence. Vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font dans les pays en ce qui concerne les conférences internationales, etc. Et donc, à terme, le CETEF va se transformer justement en lieu de conférence par excellence également, où viendront débattre des opérateurs économiques.
Merci.
Ou non pas
tu
pour faire
dit, l'interview est assez longue, nous voilà. Laissons le soin
aux
auditeurs
de
le découvrir, voilà. Mais ce que je retiens d'abord, voilà un dirigeant qui fait le point de ses 100 premiers jours. Déjà, ne serait-ce que le constat. Alors, si chaque chef d'État, si chaque chef du gouvernement, si chaque ministre, si chaque directeur même de radio, de journal,
Si chaque maire,
M-A-I-R-E, peut faire le bilan des 100 premiers jours et laisser voir la projection dans le futur, ce ne serait pas une mauvaise chose pour dire que ce serait bien, n'est-ce pas?
Effectivement.
Deuxième brève, tu as approché également le groupement national des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics, ce que nous ne ménageons pas, pour des travaux mal faits, des travaux qui ne finissent jamais, les travaux dont la durabilité est même sujette à caution. Voilà ces directeurs qui ont le courage de se retrouver entre eux-mêmes.
Oui, ils se sont retrouvés en Assemblée Générale, c'était mardi dernier. Ils ont échangé sur le secteur des BTP, la filière. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises togolaises n'ont pas beaucoup de marché en ce qui concerne les BTP. C'est beaucoup plus les grands ou les ténors du secteur que vous retrouvez sur les routes, sur les grands chantiers. Et donc, ils se sont retrouvés lors de cette assemblée pour réfléchir aux perspectives et à leurs défis également. Et donc, le contenu de ce qu'ils se sont dit, justement, et les grandes lignes, nous en avons fait un article que vous pouvez retrouver à la page 7 de notre parution du jour.
Et nous allons trouver ces journaux-là et les lire. On va terminer rapidement avec... C'est le Togo qui a offert notre pays pour consultation pour les parties prenantes du Darfour. C'était dimanche et lundi dernier. d'autres journaux sont revenus là-dessus, comme Ouara les vainqueurs, comme je crois Canal D, Écho du pays. Vous achetez ces journaux à 250 francs CFA l'un et vous redécouvrirez tout cela. Oulo, très rapidement, fait société, Canal D nous parle de la gestion foncière d'une famille, hein, pas comme les autres, la famille Hongbo à Agbandi, pour ne pas dire la famille de notre ancien Premier ministre Gilbert Fosu Hongbo. Là également, les choses ne tourneraient pas vraiment comme il faut, n'est-ce pas?
Véritablement, ça, nous avons eu l'information comme quoi, au niveau de la grande famille Hongbo d'Agbandi, entre-temps, ils ont voulu vendre des hectares. Il y a au moins 100 hectares.
Pourquoi vous riez?
Oui. Parce que quand on parle du foncier, tout le monde sourit. Donc, il se fait que la famille possède 100 hectares qu'ils ont voulu vendre entre-temps. Et un conseil de famille a été mis en place, notamment avec M. Gervais Hongbo, et puis deux de ses sœurs qui président le conseil de famille. Il se fait qu'à un moment donné, dans la vente du terrain, le monsieur a trouvé des acquéreurs, mais il s'est arrangé pour que les sœurs ne soient pas présentes au moment où il négociait les arrangements pour la vente. Mmh. Et en retour, il revient dire aux autres que la vente des 100 hectares a coûté 25 millions.
De francs CFA.
De francs CFA.
100 hectares.
100 hectares. Ce qui revient à 250 000 francs l'hectare. Et quand le monsieur vient après, il remet l'argent. Mais de fil en aiguille, les sœurs demandent, mais pourquoi est-ce que tu as rencontré la personne sans nous? Pourtant, mm-hmm. nous sommes un conseil de famille. Nous devons discuter. Mais le monsieur s'est arrangé et c'est ce qu'il a ramené à la famille. Maintenant, les enquêtes. La famille a commencé par faire des enquêtes. Et derrière, on se rend compte que les terrains ont été vendus à 35 millions de francs CFA. Donc, 10 millions ont été grugés par le monsieur avec tous ceux qui ont participé à la vente. Et la famille n'a eu que 25 millions. Et lui-même a empoché 2 millions avec lui. Mmh. Ce qui fait qu'après, le conseil dit, bon, on ne refuse pas que tu aies été arrangé avec les autres, vous avez gardé 10 millions. Maintenant, les 2 millions restants, partage avec le reste. Et c'est ce que le monsieur a refusé.
Alors, que dit le... Je crois que Gilbert Hongbo aussi appartient à la famille.
Non, je crois...
Est-ce qu'il est d'accord qu'on vende le terrain et puis ce qu'on en fera?
Ça, je n'en sais rien, mais il dit que...
Okay. C'est la prochaine étude que tu vas nous faire. Michel, on va terminer par toi. Si nous suivons l'actualité, c'est que l'Europe du Sud et le Maghreb ont des températures qui donnent du feu. Quand on vous dit que le thermomètre affiche 49 degrés, 56 degrés, là-bas, quand ça va arriver chez nous ici, je suis déjà très noir, hein, mais avec les températures de 50 degrés, comment ça va être? Alors, l'une des solutions, c'est de nous protéger en reboisant. Nous sommes en plein dans la campagne nationale de reboisement et tu nous parles d'une association qui aide à ce reboisement dans la préfecture de la COSA. C'est un geste simple mais très important à souligner, Michel.
Oui, oui, c'est la JPCS qui a pris, c'est donc cette association qui a pris sur elle de faire le reboisement de certaines localités de la préfecture de la COSA. Et la dernière fois, ils étaient à Tcharé et à Soumdina. Ils l'ont fait. Et ils pensent réitérer le geste à l'année prochaine à Pia et à Tchichao. Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne chose que les jeunes s'organisent dans ce sens-là parce que. Vous savez que le gouvernement a même un projet, un vaste projet de reboisement
oui.
De 1 milliard d'arbres
à planter d'ici 2030.
Et donc, si ces jeunes s'organisent de cette façon, ça veut dire que c'est une manière aussi d'accompagner. Donc,
et nous le disons, c'est que chacun s'approprie cet acte de planter
un arbre.
Si nous plantons un arbre, ce n'est pas pour le parti au pouvoir ou
pour
l'opposition.
Et il faut l'entretenir.
Et l'entretenir.
Et c'est pour nous-mêmes.
Merci.
C'est pourquoi nous avons trouvé utile
de le rappeler. Je suis d'accord avec toi. Alors, Ourouakou Tchanyaou, je présume que vous avez déjà planté un arbre pour cette année 2023 et que vous allez planter avant la fin de l'année.
Oui, non, il faut sur ce point féliciter le ministre de l'Environnement. Pour un travail fastidieux hein, à ce niveau qui a été fait. Je rappelle que ma femme même travaille au ministère de l'Environnement.
Ah.
Et donc,
alors, les félicitations, c'est pour votre femme ou bien pour le ministre?
Non, bon, les félicitations. Non, puisque ma femme m'a obligé à le faire.
Oui.
Même si, bon, je suis un responsable où tu devrais aller. Puisque la mairie de Soukodé aussi a organisé ce travail, mais oui, je n'étais pas à Soukodé. Mais je l'ai fait ici à Lomé. Et pour moi, est-ce qu'il faut aller faire ça à Soukodé? Ben, elle m'a dit non, que ça se fait un peu partout et nous avions fait à Lomé.
Merci.
Donc, je reconnais que ce travail...
Il est important que nous nous approprions cette ambition. Si nous arrivons à verdir le Togo, c'est nous-mêmes qui serions les premiers bénéficiaires. 12h04, nous nous suspendons le temps de rebondir bientôt avec vous, chers auditeurs. 12h passées de 8 minutes, les deux numéros, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, pour vous écouter, recueillir vos commentaires, vos questions. Premier auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est Pelé.
Pelé.
Ok, je salue le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Oui, je salue M. Uroakbo avec trois casquettes.
Mm-hmm.
Bon, je pense que appel sur appel, je pense, quand on fait appel tout ça là, tout le temps, appel de Vaughan, appel de Foudreau, appel de Apevon, appel de Chissi et tout ça là, c'est pour aller faire quoi? C'est ça. Ça dit, c'est comme on a l'impression que on ne gagne, l'opposition ne gagne pas les élections. C'est que c'est un petit, c'est parce que l'opposition, vous ne pouvez pas voir toute l'opposition. Vous allez voir Jerry Tama rester, Abbas Kavoua rester avec Jean-Pierre Papou pour faire l'opposition. Vous ne pouvez pas voir ça. En 2020, l'opposition a encore gagné les élections. Ce qui se passe aujourd'hui, le RPT confisque le pouvoir avec les armes. Ça veut dire, c'est encore un coup d'État. Ce qui se fait pas qu'à passer au Niger, là, c'est ça que le RPT fait toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, l'opposition s'est levée. Le peuple s'est levé le 29 avril pour prendre sa carte d'électeur. Est-ce que le pouvoir l'a remis? Il a refusé. Il a refusé de remettre le pouvoir et les cartes pour aller voter. C'est ça le sens. C'est ce qu'il faut dire. C'est que le PC conflicte le pouvoir. Depuis le temps de Yadema, ils n'ont jamais gagné une élection. Maintenant, nous voulons une élection transparente. C'est là qu'il faut parler. Après des unions, là, l'opposition a toujours gagné les élections. Maintenant, comment faire pour gagner le pouvoir? C'est ça qu'il faut dire.
Merci, merci beaucoup, Pelé. L'ami Uruapo va vous revenir incessamment. Le temps que nous prenions le deuxième auditeur en ligne. Bonjour.
Oui, Sos, bonjour.
Oui.
Oui, c'est l'évangéliste Pengor.
Oui, nous vous écoutons.
Je voudrais m'intéresser au coup d'État avec Bazoum.
Mm-hmm.
Afrique, mon Afrique. Donc, vous voyez, moi, je savais depuis que ce monsieur, on va le foudre un jour. Mais on ne peut pas comprendre. Il y a deux coups d'État. Hein. Il y a un coup d'État bio-colonialiste. Et il y a un coup d'État qui est l'intérêt de la nation. L'évangéliste Senghor ne soutient pas le coup d'État constitutionnel. Mais écoutez, un monsieur qui par exemple, un jour dans la constitution, disait que non, les bandits, les terroristes, mais aussi là, c'est une armée qui est plus puissante que l'armée du Niger. C'est-à-dire qu'il a éliminé l'armée de la pollution. Bon, d'abord, mais écoutez, on ne peut pas comprendre qu'un chef d'État qui est là, et quand on envoie les Français, il a pris dans son pays. Mais depuis hier, M. Sarté, mes frères journalistes qui sont là-bas, vous ne voyez pas qu'il y a un groupe plutôt au niveau des États-Unis, la France, l'Union européenne. C'est quel intérêt? Voilà. Comment on peut comprendre comme ça?
Merci.
Alors que tu es chef de nous, on ne peut pas comprendre, donc c'est vraiment que Dieu nous aide et que Dieu bénisse l'Afrique. Hein.
Merci beaucoup.
Voilà,
continuez à prier pour le Togo, pour l'Afrique, pour l'humanité. Le troisième auditeur, bonjour.
Mon directeur, bonjour.
Papa Sibiti.
Bonjour, le Kotokoli Urako Tchagnan.
Merci, bonjour, papa.
Allô, répondez-moi, non?
Non, j'ai répondu, papa. Merci, bon. Merci beaucoup, j'ai répondu.
Vous savez, monsieur, ça, montre-toi la radio. Là. Allô?
Oui.
Vous savez, j'ai toujours dit dans ce pays que c'est les armes qui gouvernent.
Mm-hmm.
Vous m'avez dit non, la constitution, il faut des têtes fortes, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Les militaires là, si vous traitez, vous ne traitez pas avec eux, vous avez menti. Vous savez, Mussolini, Napoléon, Staline, Hitler, c'est eux. Quand on a dit qu'il n'y aura plus de guerre, SDN, quand les trois se sont retrouvés la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes nos enfants, écoutez-nous. Voyez, le président Talon qui s'en va là, si dans l'avion, avant de décoller, une balle là, ça ne fait pas.
Papa Sibiti, alors nous avons des pays qui ont des armées autrement puissantes comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, et l'Allemagne, mais ces pays ont des dirigeants civils à leur tête.
Oh, après toi, il y a de la signation là. Excusez-moi de vous parler, Mina. Ça, c'est dans les papiers, ça. La réalité. Deuxièmement, je voudrais venir à mon chef là, puisqu'il doit être mort là, Ourapo. Bon, ce qui se passe, le peuple, monsieur Sass, oui. Vous avez utilisé une sémantique, la caricature du pouvoir et de l'opposition. Ça, c'est grand de sens. Voyez ça là, vous allez caricaturer les gens. Non, vous êtes parti là, pour la tribune. Vous êtes de ANC. Celui-ci est PNP. Est-ce que maintenant il y aura cette fusion? Il y aura une entente
d'abord entre le parti de base. Merci, allô? merci Papa Sibiti. Soyez indulgents. Comme il y a d'autres aussi qui attendent en ligne, nous voudrions également les recevoir. Oui, le suivant, bonjour.
Bonjour, Sass.
Oui.
Monsieur Garo. Oui, vous savez, je laisse un appel à tous les chefs d'État africains de la CEDEAO. Chef d'État qui est proche de la fin sera toujours bouté dehors. Mais tout ce que le Mali jette comme déchet, le président du Nigeria prend. Tout ce qu'on jette comme déchet, il prend. Vous croyez que ça va marcher quand les chefs d'État laissent la CEDEAO contrôlée par Macron? Ça n'ira pas loin. Vous savez, je vais dire quelque chose. Macron est classique à le coup du Moko Bédia. Macron est classique à Konya, Nigeria. Et pour son troisième, à Eli Ouattara, là, dans classique à Evnari.
Merci, c'est M. Garo dans son style. Le suivant, bonjour.
Bonjour, Saf Gao, bonjour le plateau.
Bonjour.
Bonjour, grand frère Michel. C'est Richard depuis le Copenhague.
Oui, Richard depuis le Danemark.
Oui, et je vais poser une question. Bon, une analyse. À notre cher politicien. Je pense, à chaque fois quand nos compatriotes interviennent dans les radios, sur les médias, par rapport à la démocratie, par rapport aux politiques, ils comprennent ce qu'ils veulent dire. Ils comprennent comment ils parlent. Et c'est de cette manière qu'il faut éduquer nos compatriotes. Souvent, j'ai une question à ma tête. Supposons que le président Faure quitte le pouvoir, il dit « Ok, mon fauteuil, le voici, venez prendre. » Vous pensez faire combien de semaines sur ce fauteuil? Vous savez d'où vous venez. Vous pensez que vous pouvez diriger ce pays, ne serait-ce qu'une semaine? Soyons logiques.
Alors, Richard, est-ce à dire que selon vous, il n'y a que Faure Gnassingbé qui puisse diriger le Togo?
Non, pour le moment, c'est lui qui peut appeler cette situation. Le jour où ne serait pas là, c'est que le Togo ne serait pas comme nous le voyons aujourd'hui. Pour le moment,
Votre position, je vous laisse l'exprimer, les auditeurs apprécieront.
Laissez-moi.
Oui, mais vous n'êtes pas le seul, il y a d'autres également qui attendent en ligne, non, Richard.
Une seconde, s'il te plaît, je voulais finir ceci. Quand ils feront le pouvoir, avec qui ils vont composer le gouvernement? Ceux de l'opposition?
Mais l'ami Richard, avant Faure Gnassingbé, il y avait quand même des gens qui avaient dirigé le Togo à leur façon. Merci, on va évoluer avec les autres également qui s'impatientent en ligne. Bonjour. Ah, ils ont tellement entendu qu'ils sont partis, mais ils vont revenir. Oui, bonjour l'ami.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
En 2025, je serai candidat et c'est un coup KO.
Ah bon?
Ah oui.
Ok. Dieu fera que nous serons là pour voir.
Il y a dans chaque pays, des gens qui sont capables, qui ont des têtes bien faites pour gouverner. Quand vous arrivez au pouvoir, il faut bien faire pour bien partir. Quand on fait mal, on dit, là où on est assis, on est assis. Nous sommes 8 millions de Togolais, plus que même. Donc il y a des gens qui peuvent le faire.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vous en prie. Nous prenons tout dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Ouais, ça se fait toujours 5 ans. Hein.
Oui.
Il y a 55 ans aujourd'hui. Mon premier, à l'âge de 16 ans, il est en deuxième année de droit. Mon enfant veut peu devenir un président au Togo. Je voudrais parler à notre ami de Fauvernail. Il y a des têtes au Togo.
Je vous en prie, joyeux anniversaire à vous. Ourwa Kotanyaou, vous avez écouté le premier auditeur Pelé qui se demande tous ces appels-là que vous lancez, finalement, ça sert à quoi?
Non, Monsieur Pelé, je l'ai suivi. Quand le collègue Jean Kissi était sur Victoire et mon collègue Ouro Djipa était sur Nana FM, il a posé la même question et lui a donné la même réponse. Vous savez, nous avions dit que hier, nous, on était dans l'ombre. Aujourd'hui, nous sommes sortis pour maintenant faire ce qu'on disait qu'il faut faire. Et nous appelons, c'est un appel que nous avons lancé. Et c'est une affaire de longue haleine. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs, nous ne disons pas que nous voulons combattre un leadership par rapport à quelqu'un, mais nous disons que c'est notre, c'est la théorie que nous voulons appliquer à la pratique pour la réalisation. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de choses, même j'ai un document que je n'ai pas publié. Quelle stratégie pour gagner les élections en 2025 et quelle stratégie pour prendre le pouvoir et l'exercer? J'ai écrit
démocratiquement,
démocratiquement
et pacifiquement.
Bien sûr, vous savez, en 2020, j'ai été le coordonnateur des opérations électorales du parti ANC dans Tchaoudjo, dans toute la région centrale, et le superviseur de ces opérations dans la région centrale. C'est un travail que je faisais. Nous savons beaucoup de choses, ce qui s'est passé en 2020. Et si nous ne pouvons pas tirer les leçons de tout ça là pour s'organiser, je vous rappelle que c'est depuis 2019 que j'ai lancé un appel pour une révolution électorale. C'est quelque chose que j'ai réfléchi, c'est quelque chose, c'est une théorie que j'ai lancée. Mais si on l'applique, cette théorie de la révolution électorale, tout ce qu'il dit là se trouve dans ça. Je ne vais pas aller dans les détails.
Nous allons laisser votre tribune faire son chemin avec l'espoir que de plus en plus de Togolais vont la lire, la critiquer, l'améliorer. Mais je retiens ce que vous avez dit, hein, que l'essentiel pour vous, c'est que vous montrez la lune.
Voilà.
Hein, qu'on ne regarde pas vos doigts.
Bien sûr.
Mais qu'on arrive, plutôt qu'on se concentre sur la lune. Jusqu'à le jour où on pourra l'accueillir, c'est ça.
Merci.
Merci. Alors, merci avant beaucoup. De recueillir votre conclusion.
Oui, il y a Papa Sibiti qui a parlé en parabole. Je voulais dire que Papa Sibiti, je ne savais pas qu'il ne m'aime pas. Parce que Papa Sibiti aurait souhaité qu'on lance un appel à l'armée pour venir prendre le pouvoir. C'est ce que j'ai compris.
Non, il n'a pas dit ça.
Bon, oui, c'est ce que moi j'ai compris.
Non, okay.
Alors, avant moi, on a posé la même question au professeur Ninevi quand Toumani Touré avait fait le coup d'État au Mali. Le professeur Ninevi a dit qu'il n'y a pas de Toumani Touré dans l'armée togolaise. Je m'en tiens à ça. Il y a aussi Olivier Ama qui a lancé pratiquement le même appel, mais il s'est retrouvé où? À la prison civile de Mango. Et tout dernièrement, c'est Jean-Pierre Fabre qui l'a dit, de ne pas se faire d'illusion que le pouvoir togolais est un pouvoir militaire à façade civile. L'armée ne peut pas se faire un coup d'État. C'est pour ça que nous, on ne se fait pas d'illusion par rapport à ce que Papa Sibiti dit. Mais nous, on fait ce que nous devons faire. Si, après, parce que vous vous rappelez au temps fort des manifestations, Jean-Pierre Fabre a lancé un appel à l'armée de se joindre au peuple. Vous vous rappelez, il était monté dans un véhicule et il a fait l'appel. Mais c'est le lendemain, on a frappé nos frères au niveau de Todman et ici. Donc, c'est pour vous dire que nous faisons ce que nous on peut faire à l'armée de faire ce qu'elle peut faire.
Je retiens que depuis la conférence nationale souveraine, nous avons convenu que nul ne peut accéder au pouvoir au Togo par des élections. et nous souhaitons que ces élections soient le mieux organisées possible, de façon transparente, à ce que ce soit celui qui a la légitimité du peuple qui soit proclamé élu. Jean Houlot, une minute en tour de table.
Oui, juste ce que j'ai à dire, c'est que par rapport à la querelle de coup d'État que nous avons dans la région ouest-africaine, il urge véritablement que les chefs d'État vraiment prennent à bras le corps le contexte sécuritaire que la région traverse et prennent les mesures qu'il faut en concertation avec les armées. Parce qu'aujourd'hui, la crise sécuritaire est véritablement un élément déclencheur de ces coups d'État. Et tant que les chefs d'État ne vont pas prendre la mesure de la chose, souffrez que nous ayons parfois ces soubresauts-là. Et il faut dire aujourd'hui que rares sont les pays en Afrique de l'Ouest qui sont à l'abri de ce que nous avons vu au Niger. Comprennent qui pourra.
Merci.
En carton, l'homme. Comme carton.
Ah, carton.
Oui, je donne un carton vert aux FDS qui font de leur mieux au niveau du bouclier, au niveau du Nord Togo. Et je lance un appel à toutes les bonnes volontés de soutenir les réfugiés dans la région des Savanes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qu'il y a.
Les réfugiés et déplacés.
Et déplacés. Il y en a tellement et l'État n'arrive pas à gérer tout là-bas. Les bonnes volontés qui ont les moyens, essayez d'envoyer ce qu'il faut.
Merci. Pour aider. Et l'homme aussi.
J'ai un coup de cœur parce que justement la situation économique et financière du pays, c'est actuellement, ça ne va pas. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes, pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts par jour. Parce que vous savez, c'est très compliqué actuellement. Vous pouvez savoir comment les gens ont faim. C'est-à-dire que c'est parce qu'on rend grâce à Dieu, nous autres, qu'il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à regarder derrière pour savoir ce qui se passe. Mais quand vous regardez autour de vous, vous savez qu'il y a une situation qui est là. J'ai une pensée particulière à toutes ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation d'une ou dans une autre. De toutes les façons, il faut qu'on continue de travailler. Mais je poursuis en disant que il faut que au niveau de l'État, on puisse aussi continuer à penser aux populations, aux couches sociales. C'est très important.
Merci. C'est une vérité vraiment vraie. Les arriérés de salaire s'accumulent déjà dans plein de sociétés. Je ne veux même pas parler de médias. Et quand vous allez au marché, vous sentez même à l'œil nu qu'il y a une situation, que la situation financière se dégrade au jour le jour.
Est-ce que vous avez besoin d'aller au marché d'abord? Dans la vie même, est-ce que vous cherchez quoi au marché?
Ok, alors notre ami Sani Yaya et son équipe, le gouvernement, le chef de l'État, il faut vraiment regarder la situation économique. Ça ne va pas. Nous en parlons en profane, mais ça ne va pas. Michel Tadja.
Oui, comme tu l'as dit, je pense que au-delà du Togo, que les chefs d'État pensent à faire en sorte, comme le disait le professeur Benoît Albert Trojiré, qu'il y ait le minimum commun social. C'est ça qui garantit la paix.
Le minimum commun social.
C'est ça qui garantit la paix. Sinon, c'est ça qui fait en sorte qu'on ait une classe moyenne dont parlait l'ancien député.
Bourouapo.
C'est ça qui garantit la classe moyenne et c'est ça qui garantit la richesse. Le reste, si c'est des petits groupes qui s'organisent pour faire ce qu'ils veulent, bon, aussi longtemps qu'ils seront là, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils sont en train de faire du mal à ceux d'en bas. C'est pas bien.
Le meilleur ciment de la paix sociale,
oui.
C'est ce que Tevoigré avait dit.
Le garantir le minimum commun social à tout le monde.
Merci. Le message est passé. Ouro Apo Tchanyaou.
Merci beaucoup. Moi, j'ai un carton pour tous les journalistes togolais. Et depuis quelques temps, vous-même, vous organisez des débats par rapport à votre situation. Et sincèrement, ça me fait très mal. Quand des journaux que nous connaissons de référence aujourd'hui affirment ne pas pouvoir sortir en papier régulièrement et l'état de la situation économique que vous êtes en train de décrire, puisque moi-même j'ai été vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, je sais comment le pays est géré. Je voudrais vous rappeler cette phrase que Jean-Pierre Fabre avait prononcée lorsque le premier ministre Humbo avait présenté son gouvernement. À l'époque, Jean-Pierre Fabre était le président du groupe parlementaire. Il a dit que ce sont des intentions, mais il ne réussira pas.
parce que le système politique et économique dans lequel il est ne lui donnera pas les moyens pour réussir. Et Humbo a échoué. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans un système économique et politique organisé de telle sorte qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de possibilité que les gens puissent s'organiser. Et on se détruit. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été détruites. Je parle de Sokoseko BTP, je parle de... Il y a... Aujourd'hui, quand on fait des appels d'offres, on préfère donner ça aux sociétés étrangères qui rapatrient leurs richesses. On a parlé des Panama Papers, personne n'en a parlé. On a parlé de Petrol Gate, personne n'en a parlé. On a parlé aujourd'hui de Phosphate Gate. Aujourd'hui, allez-y. Avec la suspension du Togo à litier, tout ce qui se passe.
La suspension a été levée depuis.
La suspension a été levée, mais le rapport de CNUSED, le dernier rapport de CNUSED, vous verrez dans Liberté tout ce qui a été dit. Donc, nous disons que le système actuel ne peut pas permettre le décollage. Il faut changer tout.
Merci beaucoup, Roako Tchanyaou. L'essentiel, c'est que vous impulsiez le débat. Hein. Il faut que de temps en temps, les acteurs politiques publient de telles tribunes pour susciter le débat. Hein. Certains seront d'accord, d'autres pas. Mais mieux vaut faire le débat plutôt que le dialogue des armes, n'est-ce pas, Michel?
Ah oui.
Il vaut mieux que nous parlions,
oui,
que nous soyons à l'abri parce que un caporal aura pris une arme.
Oui, un fou caporal. Vous savez, les armes n'ont jamais parlé un bon langage.
Mm-hmm.
Oui, donc autant éviter les armes.
Merci beaucoup. Demain, vendredi, le club de la presse va se muer en radio de Littoral. Nous allons nous transporter dans la localité de Tomoti-Kondji, hein, au grand nord de la préfecture de Yoto. Nous allons nous installer dans la forêt classée de Togodo, en priant que les buffles et autres boas nous protègent plutôt demain et que nous animions cette émission que je vous invite à suivre demain vendredi à 11h.